Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Idowani.
Wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halo Dmauni.
Chenni Beri.
Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Pédophilie, briser le silence pour protéger les enfants, c'est le thème du Grand Dialogue de ce soir. Les violences sexuelles sur les mineurs demeurent une réalité préoccupante au Mali. La pédophilie désigne un acte sexuel ou un attouchement sexuel sur un enfant âgé de 13 ans ou moins par un adulte. Ce phénomène touche aussi bien des filles que des garçons. Pourtant, ce sujet est souvent entouré de silence, de peur et de stigmatisation. Le récent scandale qui implique Académie Maliba Star a remis cette problématique au cœur de l'actualité. Comment prévenir les abus sexuels sur mineurs? Quels sont les signes qui doivent alerter? Et que dit la loi malienne? Studio Tamani ouvre le débat avec Yacouba Dogoni, sociologue, Djuma Dramé, consultante en santé publique et promotrice d'Impact Santé, Moussa Malé Sissoko pour assurer la modération.
Le Grand Dialogue.
Mesdames et messieurs, bienvenue. D'abord, nous allons évoquer ce phénomène dans toute sa splendeur. Comment comprendre cet aspect? Madame Djuma Dramé, comment expliquez-vous les notions de pédophilie et d'abus sexuels sur mineurs?
Alors, très simplement, déjà bonjour et bonjour. Merci de m'avoir invité à participer à cette émission. Très simplement, c'est un comportement sexuel déviant d'un adulte qui va se permettre des attouchements, avant même des attouchements physiques, peut-être des fois même des allusions orales, déplacées, du coup, parce que ça va être d'ordre sexuel à chaque fois, envers un mineur. Et souvent, le cas des pédophiles, ça va être envers des mineurs qui ne présentent pas encore des signes de puberté. Donc c'est pour ça que quand vous avez défini ce qu'était la pédophilie, vous avez parlé sur des mineurs de moins de 13 ans. Parce qu'en général, à partir de 13 ans, que ce soit chez des filles ou chez des garçons, il y a déjà les premiers signes de la puberté. Donc voilà, très simplement, pour vraiment aller droit au but, c'est quand un adulte, donc une personne qui a plus de 18 ans, se permet d'avoir un comportement sexuel, donc que ce soit des gestes ou des paroles, envers un mineur.
D'accord. Et Yacouba Dogoni, vous êtes sociologue. Comment expliquez-vous l'ampleur de ce phénomène dans la société?
Très bien. Bon, moi, je pense que l'évolution de la société nous amène à réfléchir sur la maturité précoce des enfants d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ce que nous observons au sein de la société, c'est que de plus en plus les enfants grandissent vite. Mais les enfants grandissent en oubliant leur âge. Vous voyez par exemple ce qui se passe chez nous. Vous allez voir que par exemple un enfant de 13 ans, les gens ont tendance maintenant à confondre cet enfant-là avec déjà l'âge du mariage. Vous le savez très bien que chez nous aussi au Mali, l'âge au mariage c'est de 16 ans pour les filles et 18 ans pour les garçons. Et déjà, l'écart entre 13 et 16 n'est pas aussi visible que ça. Ce qui fait que les premiers signes sur lesquels les parents se basent pour fixer la date du mariage de leurs enfants, c'est des signes corporels. Comme par exemple l'apparition des signes sur certaines parties intimes de la fille, notamment au niveau des pubis, au niveau des aisselles. Une fois que les parents commencent à percevoir ces premiers signes, déjà ils pensent que les enfants ont grandi. Et donc là, l'enfant a tendance maintenant à être éduqué sur le plan sexuel, à recevoir des leçons sexuelles, comment se comporter, comment s'entretenir, l'hygiène corporelle, et ensuite comment se préparer pour le ménage. Donc c'est des questions comme ça que les parents se lèvent pour éduquer les enfants dans ce sens. Une fois que l'enfant, 13 ans déjà, entame cette période, en fait, on sent une transformation corporelle et cette transformation corporelle attire beaucoup plus les pervers sexuels. Déjà avec l'apparition du sein, vous savez très bien aujourd'hui que tous les adultes espèrent avoir, par exemple, avoir une femme qui a encore des seins, comme on le dit, des seins levés. et ces cas sont très rares chez nous ici au Mali. Ces cas sont très rares de plus en plus parce que là, la sexualité même est devenue très précoce.
Mais ce n'est pas quand même une raison.
Je ne dirais pas que c'est une raison. J'ai dit tout simplement que, puisque vous m'avez posé la question comment, donc je suis en train de vous expliquer le comment. Donc je me dis encore qu'une fois que les seins commencent à apparaître, donc les gens ont tendance maintenant à manifester leur attirance pour cette fille alors qu'il n'est pas vraiment prête, qu'elle n'est pas encore prête pour ce genre de comportement. Elle n'est pas prête psychologiquement, elle n'est pas prête physiquement, et elle n'est pas prête biologiquement. Donc, ce qui fait qu'on pourra parler vraiment de pédophilie lorsque ces enfants-là sont précocement atteints par des adultes.
D'accord. Madame Djuma Dramé, vous voulez réagir rapidement?
Je voudrais réagir. Alors, comme vous avez demandé, qu'est-ce qui expliquerait l'ampleur de ce phénomène-là dans la société?
Absolument.
Il faut savoir qu'en fait, c'est présent dans toutes les sociétés. Pendant très longtemps, on s'est dit c'est chez les Toubabs uniquement, ça n'existe pas chez nous. Non, ça existe aussi au Mali. Et en fait, il faut vraiment resituer la responsabilité sur l'adulte. Que les enfants aient des signes de plus en plus précoces de puberté, ça je l'entends tout à fait, mais ça ne retire en rien au fait que quand on a 18 ans, on n'est pas en mesure de se permettre d'avoir des gestes ou des paroles déplacées envers des enfants. Et en plus, un facteur aggravant en faire des enfants de moins de 13 ans. Il faut savoir que vous avez des adultes, pour bien resituer la pédophilie, parce que ça va peut-être heurter les gens, mais moi, je sais qu'en lycée, quand je l'ai dit à des élèves, ils n'y croyaient pas que ça existait, les pédophiles. Vous avez des pédophiles qui arrivent, vous m'excuserez du terme, à violer des bébés de 8 mois. Que ce soit des bébés filles ou des bébés garçons. À ce moment-là, on ne parlera pas de puberté précoce, parce que là, il n'y a aucun signe. Donc, c'est vraiment, faut resituer la responsabilité sur les adultes qui ont des comportements, comme le disait le sociologue, pervers. Et c'est vraiment, en psychiatrie, c'est vraiment... les psychiatres pourront me reprendre ou pas, mais c'est vraiment un trouble psychiatrique, c'est une déviance sexuelle.
D'accord. Vous évoluez dans le domaine de la santé publique. Alors, quelles peuvent être les conséquences de ces violences sexuelles sur l'enfant mineur?
Alors, avant d'arriver aux conséquences, j'aimerais déjà parler peut-être des causes favorisantes.
Rapidement.
Voilà, très rapidement, il faut savoir qu'on a des fois, en tant que parents, en tant qu'éducateurs, en tant que structure d'accueil des enfants, on ne se rend pas compte des fois de l'ampleur, de l'impact de nos paroles sur nos enfants. C'est très courant au Mali quand j'emmène mon enfant dans une école, quand je le confie la mona, par exemple, dans une famille. Moi, je suis à Ségou et j'envoie mon enfant à Bamako dans la famille. Je te confie l'enfant, tu as droit de vie et de mort sur lui, tu fais ce que tu veux. Donc en fait, quand on dit ça...
Les tuteurs en grande
voilà,
ville.
Voilà, exactement. Quand on dit ça à un enfant, devant un enfant, à un adulte, l'enfant dans sa tête, il se dit, mes parents m'ont confié à cette personne... à ma famille, ou bien à l'école, on dit au maître, tu le frappes comme tu veux,
d'accord,
tu fais ce que tu veux.
Oui, oui.
Donc en fait, tout ça, on, l'enfant dans sa tête, on lui fait comprendre que tout ce que l'adulte fait est bon, est correct, et que l'adulte a le droit de le faire.
D'accord.
Donc ça, c'est un des premiers points. Un des seconds points, souvent, c'est des fois, nous-mêmes, en tant que parents, on ne respecte pas l'intimité de nos enfants. J'y viens. Quand on se permet de rentrer dans la chambre de l'enfant sans frapper, quand l'enfant est en train de se laver, l'enfant il a 8-7 ans, il commence à se laver tout seul. Je rentre sans frapper. En fait, on apprend à l'enfant, même si tu es parent, c'est vrai que tu peux passer dans la pièce, il faut que tu apprennes à l'enfant ce que c'est le respect de son intimité. Ça veut dire qu'un jour, l'enfant n'est plus chez toi, quelqu'un va rentrer dans une pièce où il est en train de s'habiller, où il est aux toilettes, ça va le choquer parce que même ses propres parents ne l'ont pas habitué à ça.
Non.
Voilà, donc ça peut être des facteurs favorisants qui font que du coup, et ben en fait, c'est comme si on prédisposait, parce que les pédophiles ne s'attaquent pas à tous les enfants. Les pédophiles s'attaquent aux enfants qu'ils sentent manipulables, qu'ils sentent à leur merci. Et souvent, malheureusement, c'est nous les adultes qui envoyons le mauvais signal aux enfants.
D'accord. Et Dogoni, est-ce qu'il faut mettre l'accent sur l'éducation sociale, l'éducation sexuelle dans notre société?
Bon, cela va dépendre du programme de l'éducation sexuelle dans la société.
Non, même dans les familles.
Oui, mais dans les familles, vous savez très bien que les choses sont tellement cohérentes, sont tellement bien organisées, que ce qu'elles disent sort du contexte malien. J'arrive, parce que dire qu'il faut frapper... la porte avant d'entrer. Vous savez très bien que chez nous, ici au Mali, les barrières sont mises de façon automatique entre les parents, je dis bien les parents et sa fille. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, quand l'enfant atteint 7 ans déjà, l'enfant sort du cadre maintenant, du cadre éducatif de sa maman. L'enfant est confié à son papa. Surtout pour les garçons. Mais les mamans et les filles restent toujours dans la demeure de leur maman. Elles sont toujours confiées. Il y a certains signes corporels, comme je l'ai dit. Hein. Si l'enfant, les parents qui vont envoyer sa fille, par exemple, au mariage à l'âge de 16 ans ou bien à l'âge de moins de 16 ans, tout en se basant sur des signes corporels, ce n'est pas les papas qui vont observer ces signes-là. C'est généralement la maman qui observe ces genres de signes-là. Donc, on ne peut pas dire à une maman, Alors de frapper la porte de la maison de sa fille, d'ailleurs même les gens vivent ensemble dans, dans les grandes familles. Donc là, ça veut dire que tout simplement que la barrière dont elle parle, cette barrière-là, ne fait pas partie vraiment de typicalité, vraiment des signaux éducatifs qu'on donne aux enfants. Mais ce que moi je peux dire, c'est que par rapport à l'éducation sexuelle, je pense que c'est très bien de vraiment de le faire, parce que je l'ai dit toujours que quand on fait par exemple des études sur le mariage précoce, effectivement, ce sont des résultats qui vont nous amener à dire effectivement qu'il faut, à un moment donné, lorsque l'enfant atteint par exemple 7 ans, il faut changer le style éducatif qu'on va donner. D'accord. C'est-à-dire que déjà, on va préparer l'enfant à se préparer pour rejoindre une famille. Merci. Mais au-delà de 7 ans...
Merci, Dougouni,
oui. Bon, si vous... Oui. On ne pourra pas démontrer.
Merci, ok. Madame, pourquoi il est difficile, quand des cas d'abus sexuels se produisent, ou pédophilie, pour la victime de dénoncer?
Ben, ce que je disais tout à l'heure, le fait déjà qu'on prédispose nos enfants à penser que les adultes ont toujours raison et que tout ce qu'ils font contre les enfants, envers les enfants, est forcément bon. Ensuite, il y a la culture du sutura dans laquelle on vit, où du coup, on n'a pas forcément envie que Ibn Abonan Toroye, Djinye Bebenaye,
etc. Parce que la plupart des cas se font en famille.
Alors, exactement. Il y a aussi ça qui est très important, c'est que la majorité des cas d'attouchement sexuel sur mineurs, c'est souvent dans le cercle familial. Hein. C'est rarement des étrangers, parce que vous avez rarement des étrangers qui ont l'accès aux enfants. Dans le cas de l'académie dont vous parlez tout à l'heure, c'est parce que les enfants sont là-bas en internat. Donc voilà. Mais sinon, en général, c'est très souvent dans la sphère familiale, c'est des proches. Donc il y a aussi cette culture du sutura, donc que ce soit dans la famille ou que ce soit au regard des gens, aux yeux des gens, il y a la honte. Pour les garçons qui vont être victimes d'attouchements sexuels de la part d'autres hommes, il va y avoir cette atteinte à leur virilité, à leur masculinité, et le fait aussi d'être stigmatisé comme étant gay. Il y a la peur d'être stigmatisé comme étant homosexuel, il va y avoir cette peur-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre que j'avais relevé? Ben, pareil, dans le cadre aussi pareil de Maliba Star Academy, c'est que vous avez des jeunes...
On va en venir. On va en venir. Ok, rapidement, Dougouni, selon vous, est-ce que vous avez dit ces barrières-là, est-ce que ce sont ces barrières-là qui empêchent les parents ou les victimes de réagir?
Les victimes, moi je me pose la question, est-ce que les victimes sont dans un état de conscience de la victimisation? C'est la question que je me pose, parce que quand on parle de la reproduction ou bien de la production des pédophiles dans la sphère familiale, je m'interroge qui fait ça, parce que généralement dans la famille, les attouchements, comme on dit, prendre par exemple une fillette, poser ça sur son pied, ne veut pas dire que vraiment que vous faites un attouchement. Moi, je me dis encore que dans quelle société nous sommes en train d'analyser. Mais ce n'est pas la question. La question est que la victime peut se plaindre, bien sûr, si la personne vraiment est dans un état de conscience. Mais malheureusement, dans la plupart des cas, en réalité, ce n'est pas le cas, parce que là, tout simplement, la fille ne sait même pas si elle a été attouchée ou bien s'il y a des trucs comme ça, des comportements de ces gens envers, parce que là, on se dit toujours que c'est dans un cadre de socialisation. Mais au-delà de cela, lorsque ça nécessite vraiment une forme de pénétration, tout ça, donc ça veut dire tout simplement que la fille va sentir vraiment des douleurs et forcément à travers les observations sur sa façon de marcher, sa façon vraiment de communiquer, et même la peur, tout ça, parce que là, la personne sera un peu paniquée, comme on le dit souvent les psychiatres. Donc, avec cette panique qu'on va observer autour de la personne, donc on essaie vraiment de l'approcher, de demander ce qui ne va pas.
Ok, monsieur le sociologue, justement, mesdames et messieurs, on va avancer avec ce débat. Pour prévenir ces violences, il faut d'abord détecter des signes. Alors, avec Madame Djouma, spécialiste en santé publique. Alors, quel comportement, comme il a si bien dit, doit-on observer chez l'enfant ou les parents doivent observer chez l'enfant quand il y a des cas comme ça?
Alors déjà, il faut savoir que on a ce qu'on appelle, médicalement parlant, le comportement, psychologiquement parlant, le comportement sexuel normal chez les enfants. C'est-à-dire que selon leur âge, je ne sais pas, par exemple, à 2 ans, vous allez avoir des petits garçons ou des petites filles qui aiment bien se promener nus, on les dispute, va te rhabiller, etc. Ça fait partie de leur développement sexuel, c'est normal. Maintenant, si vous remarquez des comportements sexuels chez vos enfants qui ne sont pas du tout adaptés à leur âge, et ça, on peut s'en rendre compte, il aime bien toucher les parties intimes d'un tel, et surtout, c'est le côté répétitif du comportement, malgré le fait qu'on demande qu'il s'arrête. D'accord ? Quand l'enfant, malgré qu'on demande qu'il arrête de toucher les parties intimes de ses camarades ou d'autres adultes, il n'arrête pas. Quand il va chercher à s'isoler avec d'autres enfants et à avoir des comportements sexuels inadaptés qui sont pas appropriées à son âge. Je pense qu'on voilà, la sexualité adulte, on en connaît tous les tenants et les aboutissants. Quand on voit un enfant qui a des comportements qui sont pas adaptés à son âge, on s'en rend compte. Chez ceux qui sont un peu plus âgés, peut-être préadolescents voire adolescents, peut-être qu'ils vont se, ou même chez les plus jeunes, des changements radicaux de comportement, soit des personnes qui vont devenir super violentes ou des personnes qui vont complètement se recroqueviller sur elles-mêmes, qui vont arrêter de parler, éviter les gens.
Observer les silences.
Voilà, en fait, tout comportement anormal que vous observez chez votre enfant et qui est répétitif, du coup, peut vous amener, alors pas tout de suite à se dire « ça y est, mon enfant a été victime d'un pédophile », non, mais à ouvrir le dialogue pour savoir qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui ne va pas.
D'accord. Cette problématique a récemment fait la une de l'actualité à travers l'Académie Maliba Star, un centre de formation de football. Suivons à présent les explications du chroniqueur sportif Baba Sissouma sur l'affaire de présumée agression sexuelle sur mineurs dans ce centre.
C'est la toute première fois que j'apprends la pédophilie au niveau du sport au Mali et particulièrement du football. Le cas de Maliba Star, c'est un cas isolé à ma connaissance. C'est que ce genre de truc, c'est une chaîne qui a des ramifications même à l'extérieur. L'Académie Maliba Star fait beaucoup de tournées en Afrique et en Europe. La Fédération malienne de football a déjà condamné ce genre de phénomène et a lancé une alerte et un chronogramme pour faire une visite d'inspection de tous les centres et académies du Mali. Imposer des cahiers de charges, avoir un suivi régulier pour protéger des enfants de 10 à 14 ans.
Alors, Baba Sissouma, sur cette affaire qui a défrayé la chronique sur la toile. D'abord, la dénonciation a été faite sur les réseaux sociaux, puis les familles des victimes ont commencé à se manifester, à porter plainte contre les présumés auteurs. Alors, Djuma Dramé, quels sont les principaux obstacles de la dénonciation?
Ouais, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, hein. C'est voilà, la culture du Soutoula, le fait qu'on ne veuille pas s'exposer aux yeux des gens. Après, vous avez aussi un second facteur qui est quand même assez important sous nos cieux, c'est le fait que les gens n'ont pas forcément confiance en la justice. Donc du coup, ils ont peur qu'en arrivant devant les tribunaux, du statut de victime, ils puissent se retrouver soit à calomniateur, soit à, que l'affaire en fait n'aille pas plus loin, parce qu'en plus bon, je parle encore sous ce que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux où on disait qu'il y avait eu des propositions d'argent etc qui avaient été refusées. Donc ça, je trouve que c'est très bien, parce que du coup ça peut encourager d'autres familles qui ont été aussi victimes à se dire ah bah tiens, pour eux ça a fonctionné, il n'y a pas eu de corruption possible et puis le dossier a été traité jusqu'au bout.
D'accord. Le sociologue Yacouba Dogoni, est-ce que vous partagez cet avis?
Est-ce que c'est non, le même à, substance? Tout à fait, parce que ce qu'elle a dit, la culture du Soutoula, c'est vraiment une culture qui a pris vraiment de l'ampleur dans nos sociétés. Aujourd'hui,
quand c'est fait quand ça
se produit dans la famille, on fait tout vraiment pour aplanir les phénomènes afin que ça ne s'ébruite pas. Ça, c'est vraiment ça, parce que là, on fait tout pour préserver l'honneur de la famille. Ça, c'est un cas. L'autre cas, c'est aussi de protéger la victime elle-même. Parce qu'une femme qui a été victime, une fille qui a été victime de ça à son bas âge, souvent, son mariage est souvent difficile au sein de sa communauté. Parce que là, les gens vont dire que bon, telle personne a été ça et c'est ça. On va plutôt on va développer des stéréotypes autour de la personne. Mais ce que moi, j'ai dit, l'obstacle majeur, comme on l'a dit, en dehors de la culture du Soutoula, c'est aussi le fait qu'aujourd'hui, la dénonciation, en fait, au Mali n'a pas encore assez de valeur aux yeux des Maliens. On dit toujours que non, c'est entre nous, la société, on va dire que c'est entre nous. Le fait que ça se passe
entre nous...
Est-ce que
la société, indirectement, ne soutient pas vraiment? Parce que le silence, ça arrange beaucoup le bourreau que la victime.
Oui, c'est un peu ça. En fait, pour protéger la victime, en même temps, le bourreau en même temps. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la victime va en souffrir, mais la victime sera prise en charge aussi par la communauté. Mais si les cas qui sont des cas révélateurs, c'est comme, par exemple, quand on vous demande si si vous n'êtes pas à votre première tentative et que vous continuez à les faire de façon répétitive, en ce moment, les parents peuvent demander aux forces de l'ordre de sécurité vraiment de menacer le bourreau. Et c'est à travers maintenant ces gens de menace maintenant que le bourreau va se retrouver devant les tribunaux. Et c'est le cas que nous observons régulièrement au Mali.
Alors, comment faire en sorte que la victime ne soit pas stigmatisée après les dénonciations ou même si les gens ont pris vent de la situation?
C'est là que le rôle des parents rentre en jeu, parce que c'est des enfants qui sont mineurs. En fait, c'est là que les parents doivent faire bloc, parce que cet enfant-là ou ce mineur-là, ce préado ou cet adolescent-là, il est seul, il ne peut pas. Et s'il se sent soutenu et accompagné par ses parents, à ce moment-là, oui, il se sentira à l'aise de pouvoir parler et de pouvoir dénoncer. Après, ce qu'il ne faut absolument pas négliger, c'est l'accompagnement psychologique de ces enfants-là. L'accompagnement psychologique, ça ne veut pas dire que l'enfant est fou, non. Mais c'est fait pour qu'il puisse avoir un lieu de parole libre où il ne se sentira pas jugé, où du coup, on pourra lui faire comprendre qu'il était victime et que ce n'était pas quelque chose qu'il avait cherché ou que ce n'était pas quelque chose qu'il méritait.
D'accord. Alors, Dogoni, après l'accompagnement psychologique, maintenant, est-ce que des familles ou bien des parents doivent davantage instaurer un climat de confiance entre eux et les enfants pour que les enfants puissent se confier? Parce que généralement, c'est à travers la rue ou ailleurs qu'on souvent se confie.
Non, vous avez posé une question très pertinente et je salue la réponse de Mme Djouma. Mais au-delà de cette réponse, ce que vous avez posé, la confiance, il faut qu'elle s'instaure entre nous et nos enfants. Parce que généralement, vous allez voir, par exemple, il y a des choses par exemple, qui se passent à l'école que l'enseignant peut apporter ou à rapporter aux parents. Ça, c'est sûr, ce sont des évidences. Mais lorsque ça se passe en famille, on a tendance à étouffer le problème. C'est comme, par exemple, quelque chose s'est passé à l'absence du chef de famille. Donc, la maman va tout faire maintenant pour étouffer le problème.
Mais doit-on continuer à étouffer?
On ne doit pas continuer à étouffer. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faudra vraiment que les responsabilités soient prises. L'une des responsabilités, c'est que les chefs de famille doivent s'occuper vraiment de leur famille. Ne pas passer tout le temps vraiment à chercher les gagne-pain. Il faudra qu'ils s'intéressent un peu à ce qui se passe dans la journée. Et arriver à la maison, il faut vraiment communiquer avec les enfants. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Tout ça. Donc, mais si on a encore ces enfants-là, notre société va encore dire que cet enfant-là, donc, on va dire que la personne raconte tout. Alors qu'il faut ça maintenant pour que les enfants puissent s'exprimer, pour se libérer vraiment de tous les caprices maintenant dont ils sont victimes. Donc, à un moment donné, il faut vraiment donner la parole aux enfants, leur permettre vraiment de s'exprimer librement, de nous dire ce dont ils souffrent. Ensuite, ensemble, nous allons trouver des solutions.
Ok, nous allons arriver à l'étape de cette émission au niveau de la loi et la justice au Mali. Quelles sont les sanctions? En tout cas, le code pénal malien qualifie le cas de violence sexuelle et de pédophilie d'affaires criminelles. Le mois de mai dernier, le tribunal de grande instance de la commune 1 de Bamako a enregistré 4 cas de pédophilie, à en croire le substitut du procureur Moussa Idrissa Guindo. En février 2024, un sexagénaire nommé Moussa Koulibaly a été condamné à 15 ans de prison ferme pour des actes de pédophilie sur une fillette de 4 ans. Alors, nous allons à présent écouter l'intervention du juriste Ibrahim Khalil Touré sur comment déposer une plainte à la justice.
La pédophilie est punie par le code pénal malien en son article 325.5 qui dit que constitue le crime de pédophilie et est puni de la réclusion de 20 ans et d'une amende de 1 million de francs CFA. Tout acte de pénétration sexuelle ou d'attouchement sexuel de quelque nature qu'il soit commis sur la personne d'un mineur de moins de 13 ans ou toute exposition ou exploitation aux fins commerciales ou touristiques de photographies, films ou dessins à caractère pornographique mettant en scène une ou plusieurs personnes mineures âgées de moins de 13 ans. Donc voilà en somme ce que la loi dit. Par extension, il y a les attouchements, il y a la pénétration sexuelle, il y a aussi l'exposition ou l'exploitation aux fins commerciales ou touristiques de photographies, films ou dessins à caractère pornographique. Le champ est élargi pour mettre cette infraction qui constitue pas un délit mais un crime.
Alors, Madame Dramé, est-ce que vous pensez que contacter la justice pourrait être une solution? Parce que quand il y a répression, ça peut dissuader des potentiels prédateurs.
Totalement. En fait, il faut vraiment que les victimes et les parents soient informés du fait que dans notre pays, au Mali, c'est légiféré et qu'il y a vraiment des peines qui sont appliquées, qui sont mises en œuvre. Et c'est bien que cette affaire-là soit tristement... Enfin, c'est une affaire qui est très triste, mais c'est bien qu'elle soit médiatisée pour que vraiment les victimes et les parents soient au courant que c'est pénalisé et que c'est un crime. Je trouve ça super intéressant. Et d'ailleurs, je voudrais rebondir sur quelque chose, parce qu'il a parlé de production d'images pédopornographiques. Ça, c'est important que les parents soient sensibilisés à ça. Il faut savoir que beaucoup d'entre nous diffusons les photos innocemment, nos photos de famille, les photos de nos enfants sur les réseaux sociaux. Des photos qui sont tout à fait normales pour vous et moi, qui n'avons pas de déviance sexuelle. Mais c'est des photos qui peuvent être détournées de leur usage de départ et qui vont servir à alimenter ces réseaux de pédopornographie en ligne.
D'accord. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur le sociologue?
Qu'est-ce que moi je peux dire lorsque la juriste parle? Mais ce que moi je peux tout simplement dire, c'est que nous devons tout faire pour éloigner nos enfants des téléphones. Parce que le problème qui se pose, c'est que nous pensons que c'est toujours le bourreau qui va vers sa victime. Mais il y a aussi la démarche contraire. Le fait qu'aujourd'hui, les enfants ont accès au téléphone, à la même place que les parents et consultent. Vous allez dans une famille, vous allez trouver que les parents sont là en train de partager les contenus des réseaux sociaux avec les enfants. Qu'est-ce qui se partage? Qu'est-ce qui est diffusé sur les réseaux sociaux?
Est-ce qu'il n'y a pas lieu de d'éduquer même les parents sur les conséquences de
ces
actions-là?
C'est ce que moi je voudrais dire, simplement. Oui. Donc moi, ça veut dire tout simplement qu'il faut éloigner les enfants des téléphones. D'abord, il faudra, parce que tout ce qui se passe, vous allez voir par exemple sur TikTok ou tout ça, vous allez voir qu'il y a des enfants par exemple qui s'exposent, qui s'exhibent sur les réseaux sociaux et que d'autres enfants maintenant qui ont accès à ces mêmes vidéos essaient maintenant de reproduire les mêmes choses dans les quartiers ou dans la famille. Et les parents applaudissent. Donc, c'est des choses comme ça, moi, je pense qu'il faut d'abord interdire afin vraiment de prévenir ces gens de pédophilie et tout ce qu'on est en train de dire comme partage de contenu, des images à caractère pornographique et tout ça.
Alors, nous allons revenir aux juristes sur les dispositions pénales qui sont prises au Mali. Alors, c'était comment porter plainte quand une victime est agressée. Il a parlé tout à l'heure des sanctions qui sont prévues par la loi malienne. Ibrahim Kalilo Touré, juriste.
Pour saisir la justice d'une question de pédophilie, la victime ou les parents de victime doivent déposer une plainte préalable, soit à la police, à la gendarmerie, ou saisir directement le procureur de la République avec une plainte afin d'engager les poursuites nécessaires contre le présumé auteur de pédophilie. Il y a également une procédure qui est la citation directe, tant à saisir le juge d'instruction pour se constituer ensuite comme partie civile. L'instruction pourra commencer afin de rassembler les informations nécessaires concernant les cas de pédophilie.
Alors, Yacouba Dogoni, vous êtes sociologue. Comment amener les enseignants, les parents à jouer leurs responsabilités face à cette situation? Le monde change avec la technologie, vous l'avez effleuré tout à l'heure. Tout change,
sauf que c'est nous qui changeons les choses. Sinon, rien n'a changé en fait. C'est nous qui avons tout changé.
C'est-à-dire?
Nous avons tout bouleversé quoi, vraiment dans notre environnement social et politique. Sinon, en réalité, on ne peut pas imaginer dans le temps que voilà, on aurait pu avoir besoin du téléphone pour pouvoir communiquer et faire tout ce qu'on est en train de faire actuellement. Mais si on le fait, c'est parce que nous voulons vraiment utiliser le téléphone comme étant un outil de travail et non un outil vraiment de divertissement. Mais contrairement à ce que l'objectif que nous avons assigné au téléphone a été détourné et qu'aujourd'hui, ces parents-là, en fait, sont dans un état d'inconscience totale. Par rapport aux enseignants, moi, je l'ai dit toujours, les enseignants doivent faire extrêmement attention avec les enfants d'aujourd'hui. Parce que les enfants, en réalité, moi, j'ai dit, l'éducation n'est plus vraiment une valeur cardinale dans nos sociétés. Les gens ne se soucient même plus vraiment de l'éducation de leurs enfants parce que là, ils ont d'autres priorités en dehors de cette éducation. L'éducation, on le dit que oui, aujourd'hui, c'est confié à l'école. Mais l'école n'a pas le temps pour ça. L'école est là pour instruire, mais pas pour éduquer. Mais si on confie les deux rôles à l'enseignant, maintenant, c'est à l'enseignant maintenant de faire attention et ne pas, parce qu'elle avait dit au début de l'émission, les châtiments corporels, tout ça, là, les enfants ne sont plus bastonnés à l'école. Hein.
Les châtements corporels. Elle est rectifiée, oui.
Oui, d'accord. Tu es d'accord avec moi qu'elle a rectifié. Rapidement. Donc, je dis encore que les châtiments corporels, c'est quelque chose qui est interdit, mais ce qui a remplacé les châtiments corporels, parce que les châtiments corporels permettraient vraiment de mettre une certaine forme de barrière entre l'enseignant et son élève.
Et la communication dans tout ça.
Mais je me dis encore, le fait qu'on a enlevé ces châtiments corporels étaient remplacés par l'amour et l'affection. Ce qui fait que les anciens sont beaucoup plus proches de leurs élèves, aux filles surtout, pour des cas d'attouchement et tout cela. Donc j'ai dit encore qu'il faut vraiment bien communiquer avec les enfants et les sensibiliser afin que les parents et les enseignants...
Bien communiquer avec les enseignants, rapidement.
Je reprends, j'ai visiblement pas été comprise. Je disais qu'il fallait faire attention quand les parents confiaient leurs enfants à l'autorité du professeur, à l'autorité de l'académie quand vous placez vos enfants en internat sportif, à l'autorité de la famille à laquelle vous confiez l'enfant. Je disais que quand les parents plaçaient l'enfant sous l'autorité d'un autre adulte, qu'il fallait faire attention à l'usage de leurs mots, parce que souvent on dit « dinkeritae, fais-en ce que tu veux ». Mais il faut faire attention, parce que ça, c'est les mots préférés des pédophiles. Parce que, et l'enfant, il est conditionné, du coup, à se dire que l'adulte en face de lui, tout ce qu'il fera, il aura raison de le faire. C'est ce que j'ai dit.
Merci.
Ensuite,
15 secondes rapidement.
Ouais. Oui.
La responsabilité des gouvernants, des autorités,
alors, moi, j'ai voilà,
les parents.
Ouais, moi, si vraiment, alors, vous avez dit tout à l'heure que je suis la fondatrice d'Impact Santé. Impact Santé, c'est une structure qui met en place ce qu'on appelle des grains santé, donc des ateliers de prévention et d'éducation à la santé. Et la prévention des attouchements sexuels sur mineurs fait partie des formations que nous donnons. Donc, moi, pour moi, il faut que ces grains santé aient lieu dans tous les établissements scolaires du territoire. Il faut que les parents, parce qu'on propose aussi des grains santé soutien à la parentalité pour justement les sensibiliser à ces choses-là, aux comportements qu'ils peuvent du coup modifier chez eux et à comment être attentifs aux changements de comportement chez leurs enfants.
Merci.
Et on propose également à toutes les structures d'accueil d'enfants de former leurs équipes, parce qu'en fait, la responsabilité, encore une fois, elle s'incombe à 100% aux adultes.
Tout à fait. Merci beaucoup. Un enfant en sécurité est un adulte plus solide à l'avenir. La protection des enfants face aux agressions sexuelles incombe à chaque membre de la société. C'est tout pour cette émission. Merci à vous, nos invités, et vous qui nous avez suivis depuis la maison, à la régie son et vidéo, Nous Dire et Gagné Kanté. Merci à toutes et à tous.